Ce soir, on va continuer l'étude sur les dons spirituels, puis le don qu'on va voir particulièrement ce soir, dans plusieurs versets, c'est d'apprendre à connaître le don de prophétie. Le don de prophétie qui est écrit dans la parole de Dieu, poussé par le Saint-Esprit. C'est beau. On veut apprendre à connaître les dons spirituels, mais pour apprendre à connaître les dons spirituels, il faut se référer à la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de pratiques qui se font dans ce monde, puis qu'il y a des manifestations surnaturelles, il y a des paroles qui sont données régulièrement, mais c'est pas toujours Dieu qui parle. Puis là, on a un problème. Parce qu'il y en a qui parlent supposément dans le nom de Dieu, puis c'est pas Dieu qui parle. Puis là, ce qu'on va voir ce soir, on va voir qu'il y a un danger dans les paroles qu'on entend, il y a un danger de se faire tromper, puis il est important qu'on réfère toujours à ce que Dieu dit. Bon, là, ce soir, on va voir une explication biblique du don spirituel qui est la prophétie. Dans 1 Corinthiens 12:10, ça nous dit que les dons spirituels ont été distribués par le Saint-Esprit, puis les dons de Dieu, du Saint-Esprit, ils se manifestent depuis 2000 ans. Il y a des gens qui reçoivent un don, un autre, c'est un autre type de don, puis Dieu, il a réparti les dons comme il le voulait. Mais ça nous dit aussi dans la Bible, aspirez aux dons les meilleurs. Nous sommes appelés par Dieu, à ce qu'on désire de posséder des dons, plutôt à être possédé par l'Esprit de Dieu qui va manifester ses dons. Parce que c'est pas un pouvoir qu'on manipule comme qu'on le veut. C'est pas nous qui manipulons le Saint-Esprit, c'est plutôt le contraire. C'est de laisser toute la place au Saint-Esprit pour que lui agisse selon sa volonté à travers de nous. Parce que, contrairement à la magie, c'est l'homme qui cherche à manipuler son environnement par lui-même, tandis qu'un enfant de Dieu, c'est pas ça. C'est dirigé par le Saint-Esprit, on se laisse guider pour que le Saint-Esprit agisse comme qu'il le voudra, selon sa volonté et pour sa gloire. Ça, c'est tout complètement le contraire à la magie. Le don de prophétie, c'est le don de transmettre un message reçu de Dieu sous l'inspiration de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit parle pour passer un message, puis là, la personne retransmet le message que Dieu lui a donné. C'est ça qui est le don de prophétie. Mais ce qu'on voit dans la parole de Dieu, on va voir la première partie, que les prophéties ne sont pas toujours produites par le Saint-Esprit. Je ne ferai pas une grosse étude là-dessus, mais je vois quand même quelques passages pour nous aider à comprendre ce que la Bible dit. Puis la Bible nous met en garde qu'il y a des faux Saint-Esprit. En réalité, c'est pas le Saint-Esprit, c'est d'autres esprits qui parlent puis qui se font passer pour des prophètes de Dieu. On va voir dans Matthieu 7:15 que Jésus lui-même nous met en garde et dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Donc, Jésus lui-même nous avertit « Faites attention, il y a du monde qui ça semble être chrétien. Ce sont des vêtements de brebis, ça semble être des chrétiens. » Ça a l'apparence d'un chrétien, ça s'habille comme un chrétien, ça parle comme un chrétien, mais quand il rouvre la bouche, c'est faux. C'est pas Dieu qui a parlé. C'est un autre esprit. Puis même si on entendrait des choses qui se réalisent, mais qui semblent nous dire des choses qui nous touchent, faut prendre garde, puis sonder ce qui est dit, puis faire attention, parce que pas prendre tout comme du cash, autrement dit. Des livres sur les prophéties, là, il y en a des tonnes. Mettons un exemple. Les prophéties de Nostradamus. Qu'on comprend rien de ce qu'il y a dans ces prophéties-là. Puis le monde interprète ça comme qu'ils veulent pour essayer de trouver une réponse à quelque chose dans leur vie. Hein? On semble chercher de la vérité. On semble chercher quelque chose qui arrivera, qui s'accomplira. Mais c'est tellement obscur ce qui est écrit là, et c'est pas le Saint-Esprit qui a révélé cela. C'est lui, il dit qu'il a eu ces visions-là, Mais c'est un esprit qui a donné ça, mais ça vient pas du Dieu de la Bible. Les enseignements qui sont dans ces discours ne proviennent pas, sont pas basés sur les écrits de la Bible. Fait que là, si on commence à étudier ça, on fait juste se mêler davantage, parce que c'est pas le Saint-Esprit. Mais des gens qui ont fait des prédictions, il y en a beaucoup. Mais c'est pas toutes ces prédictions-là qui viennent de Dieu. C'est ça qui est le danger.
Ben moi, je connais un homme, là, puis lui était sauvé, et il a eu une très belle expérience du Seigneur et tout ça, puis il y a des gens de son église qui ont fait une prophétie sur lui, puis c'était tellement noir puis négatif qu'il n'est plus jamais retourné à l'église depuis ce temps-là.
Oui.
Parce qu'il pense qu'il est une mauvaise personne à cause de la prophétie qui était faite sur lui.
Bon. Ça, c'est un point qu'on va discuter dans les mêmes versets, parce que là, ça dit, dans Matthieu 24, le verset 11, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. » Jésus nous a averti qu'il y en aurait plein. Où est-ce qu'on voit tous ces faux prophètes-là? Premièrement, dans la multitude de toutes les religions qui existent. Il y a plein de prophéties. Un exemple, Témoins de Jéhovah ont prophétisé au moins 3 fois avec des années précises où ce que Jésus serait supposé d'être revenu. Il n'est jamais revenu. Ça s'est jamais accompli. Les paroles prophétiques, ils ont changé d'idée après ça, ils ont changé de date. Après ça, ils ont changé de date. Pourtant, la Bible, elle dit, nous ne savons pas quelle date que ça va être. Mais quand on commence à prophétiser pour annoncer une date, on commence à mêler tout le monde. Puis là, les choses arrivent pas, puis là, ils changent de date. Ça, c'est un exemple. Les religions qui prophétisent des faussetés. Mais, ce qui est aussi dommage, c'est qu'au milieu des églises évangéliques, parmi les chrétiens, il y a des gens qui disent des paroles comme venant de Dieu, puis c'est pas Dieu qui a parlé. Les faux prophètes sont pas juste dans les autres religions, sont aussi dans les églises évangéliques. Les églises évangéliques, il y en a plein de vrais, des vrais chrétiens, des vrais sauvés, des vrais prophètes, il y en a. Mais il y a aussi des fois des faux, puis ils retontent une parole de même, comme qui était dit. Ils ont une parole méchante contre quelqu'un, puis là, ils commencent à descendre et à noircir les autres chrétiens. Puis là, l'autre chrétien, il lui abandonne parce qu'il a eu rien que des paroles pour lui taper sa tête au lieu de l'encourager. On va voir tantôt un verset qui explique que la prophétie, ça sert à édifier, ça sert à consoler, ça sert à exhorter. Ça sert pas à taper sa tête pour achever celui qui a de la misère dans sa vie chrétienne. Voyez-vous? Puis là, il y a des gens qui disent, le Seigneur me dit que t'es un ci, t'es un ça, puis là, t'es tout semain de lâcher. Mais mettons un exemple, là, je dis ça de même. Là, là il tape sa personne, là. Le Seigneur me dit, puis là, il dit plein de méchanceté, puis t'es un ci, t'es un ça, puis là, la personne s'en va, puis elle arrête d'être chrétienne à cause de toutes les... La vomissure qui est sortie de la bouche, la méchanceté, les paroles dures, les paroles que jamais Dieu a dit. C'est pas Dieu qui a dit ça. C'est la personne qui s'invente ses idées, elle dit ce qui passe par la tête, puis elle est méchante, puis elle détruit les autres. Puis ça, c'est une faux prophète. Puis Dieu, dans la parole de Dieu, là, je ferai pas le tour de tous les versets parce qu'il y en a plein, mais ça nous dit que ceux qui sont parmi nous, ils font bonne chair, puis ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché, puis ils amorcent les âmes. Tu sais, il en parle dans des descriptions de personnes charnelles, mortes spirituellement, puis qui détruisent dans l'Église. C'est des écueils dans nos agapés, dans nos réunions fraternelles.
Même parmi les chrétiens, il y en a des fois qui donnent des paroles puis qui sont pas de Dieu, mais ils sont chrétiens quand même, là, mais là, ils ont fait parler l'homme.
Il y en a.
Il y a l'Esprit de Dieu. Là.
Oui, il y en a des personnes qui vont trop loin, puis par audace, ils disent des paroles que Dieu leur a pas dit, puis ils font espérer que ces paroles-là s'accomplissent.
C'est quoi qu'ils pensent dans leur pensée, ouais. Là, qu'ils disent, mais ça venait pas de Dieu, là.
C'est ce que je vois dans le prochain verset, dans Jérémie 14, 14, qui dit, « Et l'Éternel me dit, C'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donné d'ordre, je ne les ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pas d'hier tout cela. Ça fait des milliers d'années que des gens qui se font passer pour être des prophètes de Dieu, puis amener des paroles dans le nom de Dieu, puis c'est pas Dieu qui a parlé du tout. Puis ces gens-là racontent leur rêverie, leur vision. Ils ont des idées, ils ont l'imagination bien fertile, mais c'est leurs propres idées. Dieu les a pas soufflées, ces paroles-là. C'est de leur propre autorité qu'ils décident de dire ces choses-là. Puis tout ce qu'ils ont annoncé est faux. Dieu n'a pas parlé. Qu'est-ce que ça fait au bout de la ligne? Ça crée des déceptions dans l'Église. Parce qu'il y a les gens qui croient dans ces paroles-là, puis ils s'accomplissent pas. Puis là, les gens sont déçus, puis là, ils pensent de lâcher le Seigneur. Puis ça, là, ici, j'en ai vu moi-même dans des églises du Québec, de cela, mais je sais que dans d'autres pays, pour pas les nommer, je sais que c'est à tour de bras les gens qui se nomment prophètes, qui se disent prophètes, puis ils se disent, là, il y en a des prophètes qui t'en sortent, puis tu regardes dans leur profil Facebook, puis ils ont rien d'un prophète.
Ça, Daniel, ça se peut-tu, ça, du monde qui profite de ça un peu?
Oui.
Du monde qui sont bons... Tu sais, le bon sont bons pour manipuler les gens.
Oui.
Tu sais, il y a le bon chemin et il y a le mauvais chemin là-dedans.
Oui. Il y en a qui servent de ça pour soit pour se faire glorifier, contrôler les autres. C'est pour ça que Jésus nous a avertis puis il nous l'a dit. Il va avoir gardez-vous des faux prophètes que je vous ai lus tantôt. Puis à une autre place que Jésus a dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. C'est la séduction, là. Quand on parle de séduire, là, c'est parce que ça semble vrai, ça semble beau, ça a de l'air vrai, ça a de l'air beau, ça a de l'air réel, puis c'est faux. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi-même, personnellement, chaque fois que j'entends une parole prophétique, pour moi, parce que pour les autres, je peux pas les analyser, à moins que je connaisse la vie de la personne, là. Mais pour moi, quand quelqu'un me donne une parole, moi, la première des choses, Dieu me l'a-tu déjà dit? Parce qu'une parole prophétique a pour but de confirmer ce que Dieu m'aura déjà dit. Là, s'il me l'a déjà dit, là, je vais dire, là, ça a du sens. Ou si je l'ai déjà entendu, cette parole-là, pour moi, d'une autre manière que Dieu m'a parlé. Puis ça, là, il faut apprendre à discerner ce qu'on entend pour pas mettre notre foi dans tout ce qu'on entend. Même si ça sera notre meilleur ami chrétien qui a une parole un soir. Faut pas prendre ça comme du cash. Ça nous dit sonder les prophéties que ça nous dit dans la parole de Dieu.
Ça fait partie de sonder les esprits, ça, parce que Paul, quand la femme prophétisait, puis qu'elle avait un esprit de python, mais elle disait des vérités, il dit, ces gens-là, ils ont été envoyés par Dieu pour vous annoncer la bonne nouvelle. Mais elle avait un esprit de python, par exemple. Oui. Même si elle disait la vérité, elle avait un esprit de python.
Ça, je vais en parler dans le discernement des esprits. Je vais parler de ça. Mais pour les prophéties, ça nous dit de sonder les prophéties. Ouais. Examiner toutes choses, puis retenir ce qui est bon.
Ouais. Puis, Daniel, mettons, c'est moi, quelqu'un qui dit, qui prêche à Dieu, mettons, c'est ce que je veux dire, là, comme tu fais. Mais qui ne croit pas en ce qu'il dit, c'est d'hypocrisie.
Oui.
Fait que c'est quelqu'un qui n'est pas...
Mais c'est l'hypocrisie, c'est un...
C'est un prophète, ça.
C'est parce que, premièrement, il faut que tu l'aies vécu d'être né de nouveau, recevoir le Saint-Esprit. Ta vie change. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, faut que tu sois vrai dans... Un chrétien doit être vrai. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, mais ça veut dire qu'il est vrai. Puis s'il pêche, il demande pardon. Puis, tu sais, il est authentique. Mais quelqu'un qui fait semblant, qui joue un rôle de chrétien, la Bible appelle ça des faux frères. Puis il y a des faux frères dans l'Église. Ça, faut pas se faire des peurs. Il y a des faux frères, des gens qui sont pas réellement nés de nouveau, mais qui se font passer pour des chrétiens. Ils jouent comme une religion. Puis des fois, c'est par eux qu'on reçoit des paroles pour pouvoir nous mélanger. Mais... Là, je vais continuer avec mon idée, mais j'avais compris que dans la parole de Dieu, ça nous met en garde qu'il y a du mensonge, puis il y a des fausses paroles qui ne sont pas inspirées par Dieu, puis il ne faut pas prendre comme du cash tout ce qu'on entend. Parce que des prophéties là sur la fin du monde, là on a parlé des témoins de Jéhovah, mais il n'y a pas juste les témoins de Jéhovah. Même dans le monde chrétien, il y en a qui ont nommé des dates, puis ça s'est pas accompli, ou qui ont nommé des personnages en disant « c'est lui l'Antéchrist, puis c'était pas lui. Il est même pas au pouvoir, puis il est même plus là. » Tu sais? Fait que des prédictions fausses, il y en a souvent, puis faut faire bien attention, surtout ceux qui ont la crainte de Dieu. Faut qu'ils fassent attention de ne pas prononcer des faussetés. Parce qu'on est, en chrétien, on est supposé de parler selon la vérité. Un chrétien n'est pas supposé de mentir. S'il ment, c'est parce qu'il est inspiré par une pensée satanique. C'est le diable, le père du mensonge. Un chrétien doit se tenir dans la vérité. T'es mieux de rien dire que de dire ce que Dieu t'a pas réellement dit. T'es mieux de rien dire. T'es mieux d'attendre. Bon, maintenant parlons des prophéties produites par le Saint-Esprit. Dans 2 Pierre 1:21, ça nous dit que c'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, les prophéties, c'est pas par un homme qui décide jour au lendemain, moi, je vais lui sortir une belle idée là, aujourd'hui, puis tout le monde va dire amen, puis ils vont être contents, puis là, il invente une nouvelle affaire. Non, c'est pas par notre volonté de se forger des belles idées ou des accomplissements, j'aimerais ça que ça... Jésus-Christ va revenir cette année, préparez-vous! Mais là, on est en train de dire que Jésus revient cette année et qu'il revient pas cette année, qu'est-ce qui se passe?
On a l'air fou, hein?
Mais on est un faux prophète devant Dieu. Puis dans l'Ancien Testament, les faux prophètes, ils étaient lapidés.
Ah, mais c'est grave, ça, parce que là, tu t'envoies un faux message de...
Exact. 100% exact. C'est vraiment grave. Puis c'est pas l'homme qui doit décider. Il faut vraiment que tu sois assuré que c'est l'Esprit Saint qui t'a donné la révélation. Puis la première chose que tu vas faire une fois que tu as la révélation, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sonder, voir dans la Bible si c'est biblique. Faut que tu la connaisses, ta Bible. Faut que tu sois capable de prouver ce que tu dis. Si t'es pas capable, puis tu commences à dire n'importe quoi, là tu commences à aller dans une zone qui est dangereuse. Puis t'as besoin d'être sûr que c'est vraiment Dieu qui te l'a donné, cette parole-là. Dieu, là, quand il parle, là, Dieu lui compte pas de menterie. Dieu, quand il parle, ce qu'il annonce, ça s'accomplit. Dans Isaïe 48, au verset 3, c'est Dieu qui parle dans ce verset-là. Il dit « Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions, et elles sont sorties de ma bouche, je les ai publiées, soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. » Dieu, ce qu'il promet, mais il a le pouvoir de l'accomplir. Puis Dieu, ce qu'il a annoncé dans l'Ancien Testament, puis ce qu'il a annoncé dans le Nouveau Testament, ça va s'accomplir parce que c'est lui-même qui s'en charge. Donc, si je parle dans le nom de Dieu, puis je dis une chose que Dieu n'a point dite, il n'y a rien qui va s'accomplir. Tandis que si c'est Dieu qui te l'a dit la parole, puis t'annonce une parole, le Seigneur m'a montré telle affaire, là tu l'annonces, puis là, elle va s'accomplir. Tu l'attends, puis tu vas la voir s'accomplir. Parce que c'est Dieu qui te l'a dit, parce que Dieu a l'intention de le faire. Si ça vient de Dieu, ça va s'accomplir. Puis si ça vient pas de Dieu, mais ça, il n'y a rien qui va marcher. Le don de prophétie, là je vous parle un peu plus du don, là, c'est un des premiers signes qui se manifeste lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'à un moment donné, le baptême du Saint-Esprit, t'as pas ça à la naissance. T'as ça suite, après ta nouvelle naissance. Ça peut être au moment de ta nouvelle naissance ou un peu de temps après, tu te mets à prier puis demander au Seigneur d'être rempli puis revêtu du Saint-Esprit pour recevoir la puissance d'en haut. Puis il y a des signes qui se manifestent extérieurement quand tu reçois cette puissance-là. Puis là, dans le verset que j'en ai pris un, mais je vais en reparler aussi lorsque je vais expliquer le don de parler en langue. Mais le don de prophétie, ça nous dit dans Actes 19:6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Fait que C'est dans Actes 19, les gens, les premiers dons qui se sont manifestés, parlant en langue et prophétie. Prophétie, c'est qu'ils se sont mis à parler dans le nom de Dieu. Il y a eu des révélations qui se sont données, poussées par le Saint-Esprit. On voit que c'est un des premiers dons spirituels, et je vous encourage, Paul nous en parle aussi, de rechercher les dons les meilleurs, surtout à celui de prophétie que Paul nous dit dans Corinthiens. Mais il y a des effets bénéfiques de ce don-là. Ça apporte des effets bénéfiques dans l'Église, ce don-là. C'est un des plus grands dons de la parole de Dieu. Quand Dieu donne ce don-là à une personne, c'est sûr que enseigner la parole de Dieu, c'est un autre don, puis c'est un des dons les plus importants de pouvoir former des disciples. Il faut que tu sois capable d'expliquer, d'enseigner les choses. Ça, c'est important. Mais vivre le don de prophétie, c'est un des dons les plus importants parce que ça l'amène des bénédictions dans la réunion des chrétiens. J'en ai parlé un petit peu tantôt. 1 Corinthiens 14, 3, ça nous dit « Celui qui prophétise, il parle aux hommes, puis il les édifie, il les exhorte, puis il les console. » Quand une prophétie est annoncée, c'est la parole qui va être dite, ça l'édifie. Qu'est-ce que ça veut dire, édifier? Ça nous fait grandir dans le Seigneur, ça nous renforcit, ça nous équipe, ça nous donne des paroles qui nous donnent encore plus le goût de continuer à servir le Seigneur. C'est des paroles qui nous fait grandir. Puis c'est des paroles qui nous exhortent, puis nous consolent. Ça veut dire que la prophétie a pour but de former des disciples pour les rendre plus forts. Ça a pour but de les exhorter. Les exhorter, ça peut être « je vous encourage à ». Là, c'est un encouragement. D'exhorter, c'est un encouragement. C'est pas taper sa tête, t'es rien qu'ainsi, pis ça, puis là, Dieu te juge, puis Dieu te condamne. C'est pas de Dieu, pas en toute cette attitude-là. Quand t'entends des paroles de prophétie, t'entends ça, puis ça te bénit. T'es encouragé.
À moins que Dieu révèle un péché quand même, là.
Mais ça, c'est dans une situation...
ça arrive, là.
Ça peut arriver, mais c'est pas le but du don de prophétie. On va le voir dans un autre but. Mais ça peut arriver. Puis l'autre chose aussi qu'on voit, c'est la consolation que ça donne. Des paroles qui consolent. Ça veut dire que des personnes qui sont tristes, sont abattues, ils pleurent. Quand t'entends une prophétie, ça va te faire du bien. Ça va te faire un baume sur ta vie. Ça t'encourage quand c'est des paroles de Dieu. Si t'entends une parole qui dit « Mon enfant, je suis avec toi, puis je t'accompagne dans ta marche, puis je veux te bénir, ou je veux... » Quand t'entends des paroles qui dit des choses qui te fortifient comme ça, ça console, ça t'encourage, ça t'édifie, tu te sens que t'es dedans, là, t'es avec le Seigneur, puis ça te bénit. C'est ça qui est le premier but de la prophétie dans l'Église. C'est pas du jugement, de la condamnation. Mais, là j'arrive dans le verset qui parle dans ce sens-là, Dieu se sert aussi de la prophétie pour dévoiler les cœurs, qui est pas de condamner puis de taper sa tête, même si les cœurs peuvent être dévoilés. 1 Corinthiens 14, 24, ça nous dit, « Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou hommes du peuple, puis là, il arrive dans la réunion, là, puis là, tous prophétisent. Il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte tombant sur sa face, il adorera Dieu, puis publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Le but de la prophétie, c'est de dévoiler les cœurs.
Comme quand Jésus était à côté de la pluie, puis la femme samaritaine
c'est
est arrivée, puis il a dévoilé qu'il a connu s'est mariée
avec. Ça, c'est la femme samaritaine.
C'est ça, puis là, elle était touchée, elle était allée voir tout le village pour dire que j'ai rencontré un homme, puis il connaît toute ma vie.
Oui, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Puis là, il a dit que celle qu'il avait n'était pas son mari, le dernier. Elle a eu 5 maris, puis celle qu'elle avait présentement n'était pas son mari, mais il a pas tapé dessus.
Ben non.
Il a révélé son cœur à la femme samaritaine, il a révélé sa vie. Les pensées de son cœur puis son mode de vie étaient révélées, mais c'était pas de la condamnation. C'était une bénédiction qu'elle était encouragée puis bénie d'entendre les paroles. Puis ça, elle est partie puis elle est dit ça à tout le monde. Puis ça, elle, il m'a dit tout ce que j'ai fait.
Puis toute la village sont venus vers Jésus apparemment, hein, pour entendre la parole.
Oui, mais c'est point le Christ, parce qu'elle, elle attendait le Sauveur.
Elle avait la foi.
Le Seigneur n'a pas condamné puis ses péchés. Au contraire, il a fait des révélations, parce qu'il a dit, les gens désormais, parce qu'elle a dit, vous dites, vous autres, les Juifs, qu'il fallait adorer à Jérusalem. Il dit, voici maintenant ce que je vous dis. Il dit, les gens, ils n'auront plus besoin d'aller là.
C'est ça.
Ils vont adorer en esprit et en vérité. Il a fait des belles révélations à cette femme-là, le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas, comme dit Père Daniel, il n'a pas tapé sa tête et dit, hey, tu t'es varié cinq fois, puis blablabla.
Mais dans l'Église, souvent, on peut voir des paroles. Là, nous autres, on n'entend pas souvent des paroles qui frappent, mais j'en ai déjà entendu des paroles de condamnation, puis de malédiction. En plus, ce n'était pas du Seigneur.
Il est venu pour condamner, il est venu pour sauver.
Mmh. Ben oui.
Okay. Un autre. Oui.
Mais Dieu, peux-tu, comme pas te punir nécessairement, mais te donner une leçon pour que tu te relèves plus fort, mettons?
Oui.
Ben
oui.
Tu fais ça.
Ah, oui. Comme un père qui châtie.
Tu sais, il arrive des affaires, mettons, dans la vie que ça va pas bien un bout de temps. C'est peut-être juste un signe aussi, ça.
Oui. Dieu, il parle, puis Dieu, des fois. Dieu, il serre la vis, des fois. Pareil comme un père corrige son enfant.
Parce qu'il est en train de te former.
Mm-hmm. Comme un père corrige son enfant, puis il dit ce que là, ce que tu fais pas, ce que tu fais là n'est pas bien. Puis il te le dit, mais là, si tu continues, des fois, il est obligé de faire quelque chose pour. Là, t'as pas écouté, là. Mais il sait comment travailler avec nous autres, puis il nous prend dans. Il sait que c'est faire. Dans la prophétie, ça, on a vu que là, ça servait à l'évangélisation, dans un sens. La prophétie, quand les cœurs sont dévoilés, ils vont dire Dieu est réellement parmi vous, ça allait amener des âmes au salut. Mais des fois, dans la prophétie, c'est dans le but de dévoiler les cœurs rétrogrades à une personne quand Dieu veut justement la ramener à l'ordre. Puis dans ce passage-là, on voit ça dans 1 Timothée 1:18. Paul est en train de parler à Timothée, puis il lui dit, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, il, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles que tu combattes le bon combat. » Là, dans ce contexte-là, ça, c'est que Timothée, il s'était laissé aller, puis il avait arrêté de combattre. Puis Timothée est un homme de Dieu, quelqu'un qui avait été élevé dans la foi évangélique, puis il était né de nouveau, il marchait avec Paul, puis il accompagnait Paul d'un voyage missionnaire, puis il avait été envoyé par Paul aller prêcher dans certaines églises. Puis à un moment donné, il était jeune, puis il avait ses combats de jeunesse, puis il se sentait pas à la hauteur pour faire qu'est-ce qu'il avait à faire, puis il était intimidé même de rencontrer les autres, puis Paul lui a dit dans ses passages, que personne ne méprise ta jeunesse, puis là, dans ce passage-là, il est en train de dire qu'il y a eu des prophéties qui ont été faites à ton sujet pour dire que tu dois combattre le bon combat. Que là, il est en train de se laisser aller, puis les frères et sœurs en prière, qui ont le don de prophétie, ont eu une révélation. Timothée, il a besoin de recombattre le bon combat. Fait que là, Paul, il est parti avec le message, puis il a envoyé une lettre à Timothée. Puis il en a envoyé deux lettres en fin de compte. Puis dans la première lettre à Timothée, il dit ça, qu'il y a eu des prophéties qui ont été faites pour te dire, reprends-toi en main, là, Timothée, garde le dépôt que tu as reçu par le Saint-Esprit. Puis là, combat le bon combat, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession. Paul s'est servi de la prophétie pour l'encourager à se dire, prends-toi en main, puis continue. C'est ça que ça sert à la prophétie, à édifier, exhorter, consoler. La prophétie aussi, c'est dans le but d'annoncer les choses à venir. Ça, on voit ça dans Actes 11:27. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre, et elle arriva en effet sous Claude. On voit là-dedans que Agabus, qui est un prophète, il a eu un message de Dieu. Il va y avoir une famine dans notre territoire. Il l'a annoncé, puis elle a eu en effet eu lieu dans le temps sous Claude. Claude, je le connais pas, ça doit être un gars qui était dans le temps, dans ce temps-là.
Probablement un empereur romain.
Ou quelqu'un qui régnait sur ce territoire-là, parce qu'il y a des rois, ouais. Il y a le roi Agrippa, puis ça, mais il y a dans les époques, ça changeait. En tout cas, je ne sais pas c'est qui, mais en voulant dire que la prophétie annonçait qu'il y aurait une famine, puis elle a eu lieu. Puis c'est... puis Paul aussi, dans Actes 20, 23, pendant son ministère, lui, Paul, c'est un évangéliste missionnaire, c'est un apôtre, mais il évangélisait partout, il implantait des églises dans des villes, puis il allait évangéliser dans des villes, puis dans des villages, puis il fondait des églises. Puis le Saint-Esprit l'avertissait d'avance des tribulations qu'il y aurait dans sa ville, dans la ville où il allait évangéliser. Il était averti d'avance. Quel combat qu'il y aurait à vivre, quel problème qu'il y aurait à affronter. Ça, on voit ça dans Actes 20, 23. Paul, il dit, « Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. » Le Saint-Esprit, il dit là, tu vas être pris par les gars, tu vas être mis en prison, puis ou tu vas te faire battre de verge, ou tu vas te faire lapider. Paul, il a été lapidé 3 fois, il a été battu de verge, puis battu de fouette, il a été mis en prison, apparemment qu'il aurait peut-être passé 7-8 ans de sa vie en prison, mais il a eu fait naufrage en bateau, il a eu des famines, il a vécu de pas avoir rien à manger, pas avoir rien, il était tout seul, abandonné par bout, il y a des bouts qui étaient en groupe, puis il était dans l'abondance, mais là, je parlais de ces temps durs qu'il y a eu. Mais ça nous dit dans le passage que le Saint-Esprit avertissait Paul d'avance quel problème qu'il y aura à vivre dans telle ville. C'est hot, ça. C'est une parole inspirée de Dieu qui annonce les choses à venir.
Il a vu ça pour ça, travailler tout ça en plus.
Oui. Mais il y en est mort. Il y en est mort.
Ouais, mais...
À la fin de sa vie.
Oui. Oui.
Hey, puis ça, là, t'en vois une, là, ils l'ont lapidé, ils l'ont laissé comme mort. Ça, lapidé, c'est lancer des roches jusqu'à temps que tu meurs. Puis là, ils l'ont laissé comme mort, puis le lendemain, il est en train de prêcher en cours d'une autre ville, il devait être plein de bleu dans la face, plein de coupeurs. Il devait être massacré, là, le visage enflé.
Combien de fois qu'ils ont donné le fouet, 39 coups, 40 coups moins là?
Ouais. 39 fois, une couple de fois.
Il y a peut-être eu des guérisons miraculeuses aussi.
Peut-être, mais il y a eu des souffrances, puis ça, c'est sûr que ça fait mal des coups, ouais, même si t'es chrétien. La prophétie a servi aussi pour appeler des gens au ministère. Je vais vous dire le contexte. Dans Luc 1, 67, Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Puis là, on voit au verset 76, ça parle de son fils à Zacharie. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » Là, on voit que Zacharie, qui était le père de Jean-Baptiste, a été rempli du Saint-Esprit, puis s'est mis à prophétiser pour son enfant. Puis ça s'est accompli, ces paroles-là, parce qu'on voit que Jean-Baptiste, il était le précurseur de Jésus, puis il était là pour annoncer aux gens de se repentir pour le pardon de leurs péchés, puis etc. Ces paroles prophétiques qui venaient du Saint-Esprit se sont accomplies. Donc, la prophétie était dans le but d'appeler son fils dans le ministère, même s'il était un enfant. Mais ce qu'on remarque, c'est pas le père qui a décidé quelle prophétie dire à son enfant. C'est lui, rempli du Saint-Esprit, il a dit les paroles que le Saint-Esprit lui a dit. C'est le Saint-Esprit qui appelait l'enfant au ministère, et non pas le père qui souhaitait que son enfant rentre dans le ministère. Ça fait toute une différence, parce que souvent on pense que ça vient, il y a des gens, pas tout le temps, mais il y a des gens qui pensent que c'est eux autres qui décident, puis ils se mettent à prophétiser. Je prophétise que la bénédiction va être sur ma vie, et que la santé va être sur ma vie, puis la richesse, l'abondance. Là, ils s'annoncent des choses pour faire espérer que ça arrive. Mais c'est eux autres même qui le disent, ça vaut zéro. Il faut que ça soit poussé par le Saint-Esprit pour que ça puisse se faire. Il faut que ça soit le Saint-Esprit qui dit...
Ouais,
les pensées positives. Mais ça, il y en a dans l'Église, des pensées positives.
Nos désirs, on pense qu'ils viennent de Dieu, mais c'est nos désirs à nous autres qu'on voudrait que ça soit comme ça.
Oui.
Ça ne veut pas dire que c'est une prophétie.
Non, c'est ça. Puis là, quand on la présente à Dieu, il ne faut pas la présenter comme si ça serait une exigence. Il faut plutôt la demander. Parce qu'on est devant le trône de grâce, puis on prie. Seigneur, j'aimerais ça que... Voudrais-tu que je te prie pour ça? Là, tu la demandes comme si tu te donnes comme une grâce, un cadeau que tu mérites pas. Si tu y vas dans cette attitude-là, tu as plus de chance. Pas de chance, mais tu as plus de... C'est plus officiel que ça va arriver parce que Dieu exauce les prières que de se proclamer nous-mêmes qu'on est en pouvoir de, puis qu'on décide de. Ça, ça vaut zéro. Dans Actes 13, 1 à 2, c'est encore dans la même pensée que la prophétie appelle les gens au ministère, c'est qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lysius de Cyrène, Mahanen, qui avait été élevé avec Hérode de Tétraque et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Pendant qu'ils étaient en train de prier puis ils étaient ensemble dans la prière, mais les prophètes ont eu la révélation par le Saint-Esprit. Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre de ministère à laquelle je les ai appelés. Puis c'est ce qui est arrivé. Ils ont prié pour eux, puis là, ils sont partis dans le ministère. Et on voit un dernier passage qui nous parle encore de cela, que les gens sont appelés par prophétie dans le ministère. On voit ça à Timothée, 1 Timothée 4, 14. Paul il dit à Timothée, « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. » Voyez-vous, le don spirituel, le don que Timothée avait reçu, il l'a reçu par l'imposition des mains des anciens et par prophétie. Il y a eu des paroles prophétiques qui ont été annoncées, dites par le Saint-Esprit, puis que là, ça l'équipait Timothée pour son ministère. Voyez-vous, on vient de faire un petit survol du don de prophétie, comment c'est important que ce don-là soit mis en œuvre dans l'Église, qu'il soit mis en action dans l'Église. La Bible nous le dit, comme je l'ai dit tantôt, aspirez aux dons les meilleurs, surtout à celui de prophétie. Ce qu'il faut comprendre, on a tous reçu au moins un don quand on s'est converti. Mais il y a des dons spirituels, puis il y a des dons de service. Mais ça, on est en train de voir les dons spirituels, puis il y a les dons de service, puis il y a des dons de prédicateurs, etc. On va tous les voir, les dons. L'important, c'est de trouver notre place dans le corps de Christ. Trouver notre don que Dieu nous a donné et aspirer à d'autres dons. Si on les voit, ces dons-là, c'est dans le but qu'on soit encouragé à dire, c'est dans la Bible, je le veux. Seigneur, là, on se met à prier pour ça, puis là, on s'attend à ce que Dieu nous les donne. Amen.
Amen.
Prions. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on est rassemblés, puis merci Seigneur pour ta parole, c'est beau, ça fait du bien de voir tout ce que tu nous dis sur la prophétie, puis c'est un don merveilleux qui est dans ta parole, puis ça existait dans l'Ancien Testament, puis c'est distribué sur tes serviteurs et sur tes servantes par le Saint-Esprit. Seigneur, nous réclamons ce don, c'est un don nécessaire pour l'avancement de ton Église, afin que tu puisses bâtir l'Église et la diriger dans tes voies, dans ton chemin, puis de l'équiper pour que les brebis soient fortifiées, encouragées, exhortées, consolées. Viens faire ton œuvre, Seigneur, distribue les dons et donne à tous de rechercher d'être baptisés du Saint-Esprit, de recevoir cette puissance, Seigneur, et de que les dons puissent se manifester à travers de nous. Nous remettons nos vies entre tes mains, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen.